Alors, bon matin. Ça fonctionne, le micro? Oui. Alors, merci de m'accueillir chaleureusement. Et puis, comme Brian a dit, là, on avait le ralliement d'église hier. C'est quand, toujours une fin de semaine assez excitante, le ralliement d'église à chaque année, l'avant-dernière fin de semaine de juin. Et puis, moi, j'ai été vraiment édifié aussi hier avec le sujet de la prédication. On avait un invité spécial qui nous parlait de génération en génération. Comment est-ce que l'Évangile est passé de génération en génération? Vous n'étiez pas là, mais vous pouvez aller lire le passage qu'on a reçu puis qui a été exposé. C'est Actes chapitre 2, qui soulève à la fois une église multigénérationnelle que Dieu a emmenée à la conversion et à la fois multiculturelle que Dieu a emmenée à la conversion. Et puis, la dernière partie du chapitre 2, c'est quoi l'essentiel qu'on veut passer de génération en génération? Le reste, c'est pas grave, mais l'essentiel d'abord qui est là. Alors, j'espère que j'ai piqué votre curiosité. Actes, chapitre 2. Alors, voilà, quelques nouvelles encourageantes. Encourageantes et nuancées, encourageantes, là, mais Dieu donne de la relève, mais aussi Dieu a donné de la relève comme coordonnateur régional dans la région. Alors moi, c'est ma dernière visite officielle, et puis comme coordonnateur régional, parce qu'on a de la relève, puis le pasteur Benoît Brulotte, qui est à Alma, va prendre la relève de ce rôle-là à partir de cet été. Alors, c'est une nouvelle encourageante parce que je ne peux pas être partout en même place. Et puis, c'est que lorsque j'ai quitté comme pasteur à Alma il y a 4 ans, pour prendre le rôle de pasteur ressource au bureau de l'association. Bien, on n'avait pas de relève comme coordonnateur, puis le bureau de l'association a dit, bien, Jean-Philippe, si tu es prêt à voyager, on va continuer à te rémunérer pour que tu puisses l'intégrer dans tes tâches. Et ça m'a fait du bien, parce que quitter une région, c'est difficile. Hein? Et puis, je l'ai fait avec beaucoup de joie, alors de continuer ce rôle-là. Mais en même temps, bien, Dieu a montré là, que mes tâches augmentaient, puis il y avait de la relève dans la région. Alors, c'est une bonne chose. C'est encourageant juste de voir le pasteur Aaron, qui est nouveau à Chicoutimi, Aaron Murray. Et puis, il y a une volonté d'avoir de la formation régionale pour les ouvriers, des cours régionales. Alors, lorsqu'il y avait pénurie d'ouvriers, bien, on était moins actifs de ce côté-là. Puis là, bien, Dieu redonne des ouvriers, alors dans la région. Mais on prie pour des ouvriers, un ouvrier pour qu'il puisse venir à Saint-Félicien, n'est-ce pas? Alors, juste une petite anecdote d'encouragement. L'église de Val-des-Sources, anciennement qui se nommait Danville, cherchait aussi un ouvrier depuis 5-6 ans. Et puis, une église d'une cinquantaine de personnes. Ils ont été éprouvés pendant la pandémie. Et puis, maintenant, Val-des-Sources, c'est un petit peu en région éloignée là, de Victoriaville, dans ce coin-là. Et c'est tout le temps un défi de trouver des ouvriers qui veulent aller en région, c'est vrai, hein? Alors là, des fois, on peut se décourager. Et puis, l'église de Val-des-Sources priait pour un ouvrier jeune, pour les sortir de leur confort. Puis, ils priaient pour un ouvrier qui allait venir à eux, qui ne courrait pas après. Fait qu'ils disaient, Seigneur, pourvois souverainement. Et il y a un ouvrier qui était fini sa formation, qui venait de se marier, 26-27 ans, avec son épouse. Et là, il y avait il voulait une certaine région, il avait à cœur. Et puis, on l'a emmené à visiter 3 églises. Il n'était pas trop convaincu, puis il était encore en prière. Puis, le papa de cet ouvrier-là, il habite à côté de Val-des-Sources. Il ne marche plus avec le Seigneur depuis un certain temps. Il dit, « Ben écoute, mon garçon, j'aimerais ça peut-être... revenir à l'église. » Fait qu'il lui dit, « Papa, si tu veux, ben on va venir. Son épouse s'appelle Mélodie, puis j'entends Mélodie. Pis on va venir, puis tu ne seras pas tout seul pour aller visiter l'église que tu ne connais pas, puis on ne la connaît pas non plus. » Alors, le dimanche suivant, ils vont à l'église, puis Jonathan et Mélodie sont là, puis ils entendent ce que Dieu fait dans cette église-là. Ils entendent qu'ils cherchent un ouvrier, que l'église prie pour ça. Et puis là, ils sont ressortis de l'église, puis ils ont dit, « T'as-tu senti ce que j'ai senti? » Je pense que Dieu nous appelle à explorer avec cette église. Alors, ça a été un coup de foudre, et pour l'église, et pour l'ouvrier. C'est en démarche, là. Alors, comme vous avez vécu déjà des démarches de fréquentation avec un nouvel ouvrier, pourquoi je vous dis ça? C'est que Dieu pourvoit. Des fois, dans la saison d'église, on n'a pas. Dieu fait des choses quand même. En son temps, Dieu pourvoit. Puis il pourvoit à travers nos prières, puis il est fidèle. Alors, je vous encourage à persévérer, à prier. Dieu aime son Église à Saint-Félicien. Et puis, il va pourvoir encore dans des saisons qui s'en viennent. Alors, juste pour vous dire une dernière chose, j'ai emmené des cartes de prière. puis, il y a ma photo dessus, mais il y a la belle Catherine aussi. Alors, j'en ai juste 5-6. Je suis désolé, je pensais que je n'avais plus que ça. Mais je vous invite à venir en chercher une, si vous voulez, plus tard. Ces cartes de prière, c'est des cartes de prière dans mon rôle de pasteur ressources au bureau de l'association. Alors, je suis directeur Vitalité des Églises. Et puis, un paquet d'autres tâches. Je suis artisan de paix. Je coach les coordonnateurs régionaux. Alors, je vais accompagner Benoît dans l'intégration de son rôle. Et puis, je me sens au front du combat spirituel souvent. Alors, quand que le bureau, on dit « Jean-Philippe, tu veux une carte de prière? » Tout ça, j'ai dit oui. Puis, j'ai mis des prières de combat spirituel. Personnel, puis pour la famille d'Église. Alors, si vous voulez prendre une carte de prière, et puis, il est écrit « Merci de contribuer à mon ministère », mais je n'ai pas demandé que ce soit là, parce que l'association contribue à mon ministère. Mais si vous voulez contribuer au ministère de la BEC, bien, s'il vous plaît, faites-le. Mais pas pour du financement, mais plutôt pour des prières. Alors, il y a 6 cartes de prière. Puis, si jamais il y en a besoin de plus, j'en enverrai d'autres par la poste. Mais vous êtes bienvenus de venir chercher ça tout à l'heure. Alors, on va tourner dans la parole ce matin, dans la Genèse, et puis chapitre 11. Et en guise d'introduction, j'aimerais vous parler quelques instants de mon garçon Olivier, mon deuxième. Il a cherché du travail cet hiver, fin de l'hiver. Et son frère travaille depuis 2 ans. Lui a tardé à aller chercher une job à temps partiel, tu sais, comme étudiant au secondaire. Puis, parce que l'école, c'est difficile, t'es dyslexique, puis il mettait 3 fois plus d'ouvrages dans les devoirs. Puis, voilà. Mais, février, là, il s'est décidé, puis il va vraiment mieux. Il a fini son secondaire 3. Et il va pour chercher du travail, je l'accompagne, on cherche des places, on va porter des CV, puis... Puis on prie en famille pour ça. Puis on met Dieu à l'épreuve de pourvoir un travail. Et ça se passe pas si bien que ça. Alors, il est arrivé dans une épicerie, puis là, ben, il donne ses disponibilités, peut-être 1 ou 2 soirs de semaine, le samedi, puis le dimanche après-midi, puis soir, mais pas le dimanche matin, parce qu'on va à l'église, puis... Puis la dame, elle dit devant un comptoir, ce que d'autres étudiants, tu sais, le comptoir prêt à emporter, là, à l'épicerie, a dit, juste ça comme disponibilité? Hey, mon garçon, il va falloir que tu puisses mettre plus de disponibilité que ça, tu sais. Je pense qu'il avait dit samedi, puis le dimanche après-midi, dimanche soir, en tout cas. Très humiliant. Et hey, puis là, le petit gars de 15 ans, il a pris son courage, puis il revient dans l'auto, là, puis... Puis, un autre employeur pour lequel il avait travaillé un peu à laver des camions le samedi, le printemps passé, il le rappelle. « Ah oui, on va te rappeler. » Rappelle pas. Il le rappelle 2 semaines plus tard. « On va te rappeler. » Puis, il ne rappelle pas. Puis, il va en personne. Puis, en fin de compte, on va être correct. « Ah, excuse, on ne t'a pas rappelé. » Puis, déception. Puis là, on trouve une autre place, un restaurant genre déjeuner Cora. Puis, hey, la madame dit, justement, je cherche la fin de semaine, parfait. Puis, elle parle avec lui, on fait bonne impression. Puis, elle rappelle, puis elle dit, tu vas commencer en fin de semaine ton training samedi. Hey, super. Hey, victoire. Puis là, ben, elle rappelle pour un autre truc, puis il dit, vous savez que, vous avez vu, hein, je suis pas disponible le dimanche après-midi, dimanche soir. Oh, elle dit, j'ai pas vu ça. Elle dit, dans le fond, je faisais ton training samedi pour que tu fasses les dimanches matin jusqu'à 3 heures. Nous, on est un restaurant à déjeuner, dîner. Ah, ben ça ne marchera pas. Puis c'était vraiment décevant. Et puis, tu sais, quand les plans de Dieu, de bénédiction de Dieu, semblent déjoués, fait que c'est devenu amer pour lui. Puis, arrivé là, ça faisait 2 mois, là. 2 mois et demi. Fait qu'il dit, là, de toute façon, le camp d'été s'en vient, je m'en vais au camp Patmos, je vais laisser faire. Puis là, j'étais avec Catherine, je dis, pourquoi Dieu fait ça? Tu sais, il a pris son courage. On a prié là-dessus, puis c'est comme si là, la prière ne marche pas. Tu sais? On ne comprend pas ce que Dieu fait. Puis moi, j'ai le goût que la prière marche parce que mon gars de 15 ans, il est converti, mais il est en cheminement de foi, puis c'est important que la prière marche pour son cheminement de foi. Vous êtes d'accord? On vote là-dessus? Puis là, il est vraiment déçu. Puis on n'en parle plus. Puis il n'a plus le goût d'en parler. Puis en fin de compte, la fin d'année scolaire vient. Puis en fin de compte, les examens de fin d'année, c'est dur. Les travaux de fin d'année, c'est dur. Puis, mais c'était peut-être pas si mauvais que ça qu'il ne travaille pas, dans le fond. Puis en fin de compte, vers la fin de l'année scolaire, fin avril, début mai, il vient avec moi pour une fin de semaine de jeune au collège biblique où j'ai gradué en Ontario, pas en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Puis les autres ne pouvaient pas. Mon gars travaillait, mais lui pouvait parce qu'il ne travaillait pas. Puis il a aimé sa fin de semaine. Puis il dit, papa, il dit, je pense que je viendrai une année au collège biblique. Puis par la grâce de Dieu, nous, on priait là-dessus, puis la déception a fait place à l'acceptation. Puis on avait dit, Olivier, tu pries là-dessus, Dieu a-tu le droit de fermer des portes puis en ouvrir d'autres? Oui. Fait que s'il ferme, dit, Seigneur va en ouvrir d'autres. Puis, mais ils ont tout fermé. Mais le collège biblique, ça lui a fait beaucoup de bien. Puis il dit, papa, je suis content que je suis venu ici. Puis il dit, bien, peut-être que Dieu ne voulait pas que je travaille pour que je vienne ici. Puis, ça a mis de la consolation dans son cœur. Puis, la madame du restaurant à déjeuner, on l'a vue, parce que je vais déjeuner des fois. Puis là, elle dit à ma femme et moi, elle dit, tu sais, il m'a fait bonne impression. Fait que quand il va revenir après l'été, là, la porte n'est pas complètement fermée, tu sais. Puis nous, comme parents, on essaie de mesurer des fois l'œuvre de Dieu dans la vie de nos enfants, là, tu sais. Puis, je vous donne une dernière chose. Il me dit la semaine passée, il dit, papa, il dit, je suis content que tu ne nous as pas permis les jeux vidéo dans la maison. OK. Ben il dit, tu sais, il dit, je vois ce que ça fait chez mes amis. Puis dans le fond, c'était tellement mieux que tu ne nous laisses pas avoir des jeux vidéo, là. Puis quand je vais être papa, je vais apprendre à mes enfants qu'on n'a pas besoin de jeux vidéo dans la maison. Wow! On en parle des jeux vidéo, puis c'est pas Satan en personne, jeux vidéo, là, mais on le dit que malheureusement, c'est fait pour rendre les jeunes addictés, puis on n'en voulait pas dans la maison. Si vous voulez en faire de temps en temps chez les amis, mais moi, j'ai été encouragé de ça. Puis, et le titre du message ce matin, c'est un Dieu capable de mener à bien ses plans de bénédiction. Puis parfois, les plans de bénédiction de Dieu dans nos vies, dans la vie de nos enfants, ils semblent être déjoués par toutes sortes de choses. Peut-être la méchanceté des autres, peut-être l'infidélité des autres, ils ont dit qu'ils feraient puis ils ne font pas, peut-être des circonstances comme des bad luck, tu sais. Mais des fois, ce qui déjoue les plans de Dieu, là, c'est mon péché à moi. Ça, c'est plus amer. Quand mes propres péchés déjouent les plans de bénédiction de Dieu, ou mes propres péchés font en sorte que les plans de bénédiction de Dieu sont là, mais c'est comme si je les invalidais pour un temps, ou je les annulais pour un temps. Et puis ça, c'est la réalité, on va vivre ça régulièrement. Et puis, je pense que les plans de Dieu, bien, ils continuent, malgré notre faiblesse humaine, malgré les péchés humains, puis on voit ça à travers les Écritures. Et puis, et j'ai le goût de vous encourager, parce que dans les Écritures, on va voir que les plans de Dieu, ils ne sont jamais déjoués. En apparence, peut-être. L'être humain, peut-être, semble être des fois souverain pour scraper sa destinée, mais non. Les plans de Dieu ne sont pas déjoués. Et puis, j'aimerais ça vous encourager avec ça ce matin. On va regarder ensemble dans le livre de la Genèse. Et puis, juste pour vous dire, alors qu'avant qu'on lise dans Genèse chapitre 11, il y a des plans de bénédiction de Dieu à toutes les générations, à toutes les époques dans la Bible. En fait, vous pourriez lire presque chaque bloc d'histoire, là, tu sais, dans la Genèse, Exode, Lévitique, puis on peut se poser la question, OK, c'est quoi la bénédiction que Dieu veut déverser ici? OK, que les êtres humains l'accueillent ou non, c'est quoi la bénédiction que Dieu veut déverser? On pourrait trouver réponse dans le texte. Dieu, c'est comme un bénisseur, acharné, persévérant, patient. Tu ne le feras pas changer d'idée. Il veut bénir. Il avait commencé en le disant à Adam et Ève, « Mangez pas de ça, parce que vous allez mourir. Moi, je veux te donner la vie. » Puis ça a commencé comme ça, puis Dieu, il s'acharne à donner un moyen de rebénir et rebénir encore. Et puis, alors dans Genèse chapitre 11, on est dans une saison de cette tentative-là de bénir, et puis un moyen où ce que Dieu va se révéler capable de bénir à nouveau. Alors c'est l'histoire de la tour de Babel. Qui connaît l'histoire de la tour de Babel? Alors, qui ne connaît pas l'histoire de la tour de Babel? C'est correct, là. Et puis, alors, c'est une histoire connue depuis longtemps. Et en fait, elle nous explique pourquoi il y a plusieurs langues. Peut-être même dans cette pièce, il y a plusieurs cultures avec différentes langues. Ça vient de la tour de Babel. Alors, on lit ça ensemble, s'il vous plaît, dans Genèse, chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient pour trouver une plaine au pays de Shinéar, ils y habitèrent. Ils se dirent les uns aux autres, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. » « Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous un même langage, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Courbons-nous un petit instant dans la prière. Merci, Père Céleste, pour cet acharnement-là à bénir. Montre-nous d'une façon éblouissante, encore ce matin, ta gloire dans ta parole, ta miséricorde, ton intervention dans la vie des hommes. Et montre-nous à travers cette prédication comment est-ce que tu veux encore intervenir d'une façon divine dans toutes sortes de choses qu'on vit, peut-être des choses qu'on a vécues cette semaine. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Alors, c'est l'histoire d'une humanité nouvelle après le déluge. Hein? Vous vous rappelez de ça? C'est juste avant le déluge. Et puis, si on regardait au chapitre 10 puis au chapitre 9, c'est un nouveau départ avec une nouvelle alliance. Et cette alliance-là, où ce que Dieu ne va plus jamais détruire l'humanité à travers un déluge. La promesse, le signe de cette promesse-là, c'était quoi? L'arc-en-ciel. Alors, une nouvelle alliance qu'on a là, qu'on peut lire au chapitre 9, versets 9 à 17. Et puis, c'est un nouveau départ où ils vont avoir comme commandement. Et là, on lit ça au chapitre 9, verset 1. Chapitre 9, verset 1. « Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Il va dire encore verset 7, « Et vous soyez féconds et multipliez et remplissez toute la terre et multipliez sur elle. » Comment s'appelaient les fils de Noé? Sem, Cam et Japhet. C'est comme un test de moniteur d'école le dimanche. Hein? Alors, on peut lire le contexte de tout ça. Hein? Alors, Dieu va donner plusieurs détails sur la croissance de chaque fils au chapitre 10. Et on a un historique, là. Probablement qu'entre le moment où il est sorti de l'arche de Noé, puis le moment où on se retrouve à la tour de Babel, là, il y a peut-être entre 60 et 80 ans. Puis on peut dénicher cette information-là parce que lorsqu'on regarde dans le chapitre 10, par exemple, toutes les générations, puis là on donne plusieurs fils, tout ça, puis là on arrive au verset 25. Il naquit à Héber deux fils, le nom de l'un d'eux était Peleg, parce que de son temps la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Joachim. Et puis, plus tard, dans la fin de ce chapitre-là, du chapitre 10, bien, tout d'un coup, ils ont chacun selon sa langue et chacun parti dans son coin de pays. Alors, ça, on réalise que le chapitre 11, versets 1 à 9, se loge quelque part, le chapitre 10, verset 25. Ça va? Alors, là, on peut comprendre ça dans notre contexte du passage ce matin. Et puis, lorsqu'on arrive au chapitre 11, ça nous aide à comprendre là, pourquoi ils se sont séparés tout d'un coup. Ils étaient un seul peuple, pourquoi ils se sont séparés. Et puis, parce qu'au début du chapitre 11, ils ont tous la même langue. Et puis, pas la même chose à la fin du verset 9 de chapitre 11. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le chapitre 11? Eh bien, ils forment une seule langue, un seul peuple. Ils se sont tous mis d'accord sur un plan très ambitieux. Un plan qu'on pourrait dire qui est contradictoire avec le plan de Dieu. Vous êtes d'accord? Oui, hein? Si on relit ça, là, une seule ville, ça c'est la gloire des hommes ici, là. Bâtissons une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom. Puis ce mot-là, un nom dans l'hébreu, là, ça veut dire une renommée, une réputation, une gloire. Fait que là, les êtres humains disent « à moi la gloire ». Le cœur humain revient au galop ici. Hein? « Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre ». C'est exactement le plan inverse de l'ordonnance de Dieu. Alors, on pourrait dire que jusque-là, les plans de Dieu sont déjoués. Parce que les hommes sont plus forts, en apparence. Maintenant, l'Éternel va venir constater le fruit de leur travail. Puis c'est intéressant hein, que l'Éternel va les laisser travailler. Il va les laisser porter du fruit de leur travail. Puis c'est intéressant que l'Éternel va venir voir. Il y a un dialogue, hein? Les personnes de la Trinité sont en dialogue parce que on voit la Trinité ici, là. Allons, descendons, et là, confondons leur langue. Ça, c'est au verset 7, là. Alors, on a comme une pluralité dans la personne de Dieu. Et puis, c'est juste une petite pépite, mais c'est un fil conducteur qu'il semble vraiment y avoir plus qu'une personne en Dieu. Puis ici, ça se loge encore une fois. Et l'Éternel va dire, non, c'est ma volonté qui va s'accomplir. Et l'Éternel est capable. Et il va déjouer leur plan. On a ça vraiment à la fin du chapitre. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Mais j'ai trois observations, je pense, qui peuvent encourager notre foi. Là. Une première leçon pratique, et puis ça relève de ce qu'on entend ici dans le passage, c'est que les hommes parlent fort et en disent des choses. Et le premier point de mon message, c'est que la voix de la désobéissance fait compétition avec la voix de la bénédiction puis la voix de Dieu. Et ce n'est pas la première époque que la voix des hommes parle plus fort que la voix de Dieu. Et la voix des hommes conduit collectivement les hommes et le peuple de Dieu à faire différent et même à faire contraire à Dieu. Et puis, il y a un phénomène humain ici là, qui n'est pas nouveau, qu'on retrouve ça à différentes époques. Le phénomène humain où ce que dit « ils se dirent » au verset 3, puis « ils se dirent encore », puis « la voix des hommes parle fort ». Parle plus fort, même, j'irais jusqu'à dire ici en observation ce qui se passe là. On apprend au chapitre 10, versets 8 à 11, qu'il y avait un roi à Babel. Comment il s'appelait ce roi-là, le savez-vous? Nimrod. Oui. Il était puissant, c'était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Et puis, mais son nom, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire rebelle. C'est intéressant, hein? Et si vous êtes curieux, vous allez lire le chapitre 9, ensuite le chapitre 10, vous découvrirez qu'il y avait un des fils qui avait été désobligeant envers son père Noé. Puis Dieu a prophétisé à travers Noé un châtiment sur les fils de Cam. Et puis il a même dit que les descendants de Cam allaient être les serviteurs de ses deux frères. Mais là, on vit l'inverse. Puis il y en a un des descendants qui a appelé son fils Nimrod, rebelle. Puis c'est lui le roi du pays à cette époque-là. Puis en fait, c'est lui qui est le roi par-dessus tous ses frères. Peut-être que son père, il a dit, non, on ne sera pas les derniers, moi. Moi, il m'a formé un leader, moi, je vais élever un leader. Mais c'est intéressant que c'est ce Nimrod-là qui est le chef, c'est un rebelle. Il va conduire cette révolte-là, parce que c'est définitivement une révolte qu'on lit ici. C'est complètement l'opposé de ce que toute cette population-là sait que l'Éternel a donné comme commandement, à deux reprises au chapitre 9. Alors, la vision de construire la ville, c'est une rébellion ouverte. Puis c'est pas nouveau, hein? Depuis que Satan est devenu pécheur, depuis que l'homme est devenu pécheur, eh bien, la voix des pécheurs se soulève régulièrement contre Dieu. Et la voix du prince de ce monde se lève contre Dieu. On va aller au Nouveau Testament, parce que ça existe encore dans le Nouveau Testament. Puis un passage que vous connaissez bien dans Jean chapitre 10, et je vous lis ça rapidement. Qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus va venir et la voix du berger se fait entendre? Elle est en compétition, la voix du berger, avec une autre voix. Je vous lis ça dans Jean chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Et puis, c'est un des passages qui nous rappelle que ce sera encore et encore une tension entre la voix des hommes, la voix de la rébellion, la voix du prince de ce monde, la voix des hommes pécheurs qui est en compétition avec la voix du berger, la voix de Dieu. Et cette tension-là, ce combat-là, il est encore là aujourd'hui dans notre vie. Et plusieurs voix se font entendre tous les jours. Puis je vais en nommer quelques-unes, mais il y a la voix des téléséries, la voix des médias sociaux, la voix des nouvelles, la voix de la mode, la voix de ta parenté, ta famille, la voix de tes compagnons de travail, la voix de tes amis, la voix de tes voisins, la voix des opinions des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ça, c'est une voix qui est dans notre tête, qu'on fait retentir de nous-mêmes. Parce que notre expérience de vie nous a appris à faire parler cette voix-là. Qu'est-ce que les autres vont bien pouvoir penser de moi? Mais la voix du berger, qu'est-ce que Jésus pense de moi? Qu'est-ce que l'Esprit-Saint veut retentir comme voix en moi? Qu'est-ce que la parole de Dieu retentit en moi qui me rappelle ou que je veux renouer constamment? Ça, c'est une voix qui nécessite notre entraînement, comme aller au centre de conditionnement physique. De dire, j'ai besoin de constamment entendre la voix du berger, parce que sinon, toutes ces voix-là vont crier plus fort. Il y a un frère à l'église à Joliette, je suis membre à l'église baptiste Joliette, je suis ancien aussi là, et puis il y a un frère qui nous partageait ses luttes avec le fait qu'il est soudeur après 18 ans, là, c'est les tendinites, puis les tunnels carpiens, puis tout ça, ça sort, là. Puis là, la CSST à l'usine ne reconnaissent pas ça. Et puis là, c'est le branle-bas parce que là, il faut qu'il se fasse en arrêt de travail. La CSST couvre-t-elle? Puis le médecin de la CSST dit la même chose que son médecin. Vous connaissez ça, hein, ces patentes-là? Ça fait 2 ans que ça dure. Puis ça lui a coûté des chirurgies au privé parce qu'il ne voulait pas payer. Puis après ça, le syndicat qui poursuit. Puis. Et on l'a accompagné là-dedans. C'est un de nos diacres. Puis ils nous partageaient constamment l'attention parce qu'ils sont 4-5 à l'usine. Puis eux, ils ne chantent pas la voix du berger. Ils chantent la voix de la vindication, la voix de la médisance sur l'employeur, la voix de la médisance sur les médecins qui ne s'entendent pas, la voix de l'injustice, la voix de la colère, la voix de l'amertume, la voix de la vindication, la voix de la défaite. Puis là, par moments, là, il est submergé. Puis il y a 2 collègues de travail. En fait, il y en a 4. 2 chrétiens qui ont conduit 2 autres au Seigneur. Et puis eux, ils lui rappellent, puis ils l'encouragent. Mais on a vu ça, hein, la tension entre les deux. Puis il y a des moments où que c'était la voix de la défaite qui parlait le plus fort. Entre autres, son dossier était pire que les autres. Puis l'avocate a dit, je ne sais pas pourquoi, mais toi, là, je ne suis pas sûr qu'on va avoir rien pour toi. C'était la 2e année. Puis des moments, c'était le désert. La voix de la parole de Dieu, la voix des frères, la voix de l'Esprit-Saint l'a tellement soutenu. Puis il y a 1 mois et demi, l'avocate a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les autres, le dossier d'avocat, c'est pas gagné, mais le tien, il passe. Oui, Dieu n'est pas déjoué. Et puis, si vous êtes dans une situation où vous avez écouté tellement les autres voix, puis peut-être que vous avez perdu de vue parce que vos pronostics avec le médecin, ou la voix que peut-être vous puissiez vous réconcilier avec vos enfants, ou la voix que vous puissiez peut-être avoir la banque qui prend votre cause à cœur, rappelez-vous qu'il y a un combat spirituel. Et des fois, ça prend du temps, mais vous avez 2 voix. Vous pouvez en faire taire une. Parfois, en arrêtant de vous nourrir dans des voix inutiles, des voix qui consument, puis qui attirent votre oreille, puis qui perdent votre temps. Allez nourrir la voix du berger, qui va nourrir votre foi, qui va réaffirmer votre foi. Puis il y a d'autres voix que vous ne pouvez pas faire taire. Parce que quand vous allez dans votre famille, ben, vous ne pouvez pas lui dire « tais-toi, je ne veux pas t'entendre ». Il y a quelques voix qu'on n'a pas le choix de vivre avec. Comment est-ce qu'on va faire pour être affermi, solide? La voix du médecin, on ne peut pas la faire taire. Il va nous dire ce qu'il voudra bien. C'est le temps qu'on passe à écouter la voix du berger qui vient compenser, qui vient fortifier notre foi pour ça. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu insouffle, puis fait grandir notre foi lorsqu'on vient s'entraîner à dire, c'est cette voix-là qui donne la vie. Puis je ne peux pas faire taire toutes les autres. Mais ceux que je peux, bien, je vais les faire taire. Moins de télévision, moins de médias sociaux peut-être. Pas en faire une allergie, mais ce n'est pas là qu'on entend la voix du berger. 2e chose, c'est que Dieu laisse des cœurs rebelles porter des fruits évidents avant d'intervenir. Puis ça, c'est flagrant dans le texte. Pourquoi Dieu les laisse avancer tant que ça? C'est comme si Dieu y prend son temps. Peut-être que vous avez vu ça des fois dans la vie de vos enfants, puis vous dites, « Mais non, c'est des mauvaises décisions. Ben non, je voudrais donc y éviter ça. Vous avez des enfants grands là, qui ont peut-être mon âge. Là. Puis je peux pas. » Puis Dieu ne fait rien. Mais remarquez ici, Dieu ne fait rien. Il les laisse dire, « Hey, construisons! Faisons-nous un nom! » Puis là, il les laisse se faire mener par un rebelle. Des fois, quand on parle de certains mauvais dirigeants, là, tu sais, comme des dirigeants américains, là, tu sais. Puis là, des fois, on va dire, « Bien, ils ont bien ce qu'ils veulent, hein? Ils veulent l'avoir, bien. » Qui vivent avec les conséquences. Ils veulent suivre un rebelle, mais qui vivent avec les conséquences. Hein? Mais Dieu ici, il les laisse avancer dans leurs fruits, puis commencer apporter du fruit. Puis Dieu n'a pas l'air d'être menacé par ça. Nous, en bons parents, on dirait, bien là, il y en a des pauvres naïfs là-dedans. Là. Faudrait pas que le rebelle les conduise dans la rébellion. Là. Dieu intervient avant, regarde les conséquences sur les autres. Puis Dieu ne semble pas être énervé par ça. Alors, il les laisse former des projets rebelles. Il les laisse commencer à porter des fruits dans leurs projets rebelles. Il n'est pas pressé d'intervenir. Puis, c'est comme si Dieu a la stratégie suivante, OK? Avant de conduire des pécheurs à l'obéissance, il les laisse pâtir dans leur désobéissance. Avez-vous vu ça souvent dans les Écritures? Parce que Dieu, lui, il œuvre dans la vie des hommes à travers le libre arbitre. Puis le pécheur rebelle, qui ne se voit pas rebelle, Dieu, il va souvent dire, « Vas-y dans la rébellion. » Quand tu vas te voir rebelle, puis tu vas être malheureux, là, l'être humain rebelle va être malléable pour la repentance. Puis là, tu vas voir ta rébellion. Il y a comme un principe là, que Dieu laisse la rébellion se manifester. Puis il n'a pas peur de ça. En fait, qui d'entre nous serions venus à Jésus si Dieu n'avait pas laissé la rébellion de notre cœur se manifester, ou l'échec d'être nos propres chefs dans notre vie se manifester? Parce qu'on ne vient pas à Jésus tant que la pauvreté spirituelle ne s'est pas manifestée. Parce que Dieu dit « Heureux les pauvres en esprit », ça veut dire que c'est ceux-là qui réalisent, qui sont mis devant le fait et qui ont la grâce de Dieu que l'Esprit-Saint leur montre, leur échec spirituel à mener leur vie comme pécheurs. Alors, Dieu navigue là-dedans avec grande aisance. Jérémie, puis je vous lis ça rapidement, vous n'êtes pas obligé de tourner, mais Jérémie 17, 9 dit, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? » C'est comme une infection profonde qu'on ne sait pas à quel point. Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs et je sonde les reins. C'est comme s'il disait, moi, je vais tester le cœur. Je vais tester les consciences. L'expression là, qui veut dire rein ici, là, ça fait référence à la conscience humaine. Moi, là, je vais la révéler, je vais la tester, puis je vais la révéler, le cœur humain, la conscience humaine. Je vais les aider, ces humains-là, à le voir, tu sais. Puis même que Jacques va nous révéler quelque chose de similaire. Puis vous connaissez ça, le passage dans Jacques. Lorsqu'on est croyant, Dieu, il continue à faire ça lorsqu'on est disciple de Jésus. Fait que ce n'est pas juste quelque chose pour nous conduire à Jésus, c'est quelque chose pour nous faire cheminer avec Jésus. Jacques chapitre 1, vous connaissez ça. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. » Jacques 1, 2. Les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Puis là, ici, on a l'impression que c'est comme des épreuves circonstancielles, mais quand on lit les mises à l'épreuve, Dieu, il va bousculer nos vies. Il ne nous pousse pas à pécher. Mais qu'est-ce qui sort de notre vie lorsqu'il bouscule nos vies? Il sort du péché. On réagit mal. Là, Dieu dit, c'est là-dessus que je voulais travailler. Quand on a 5 ans de vie chrétienne, il le fait. 20 ans de vie chrétienne, il le fait. Puis 50 ans de vie chrétienne, il le fait encore. Il bouscule nos vies. Il sort quelque chose de notre cœur. Puis Dieu dit, « Oh! » Puis toi, tu dis, « Oh! » Un chrétien de 40 ans, ça fait ça? Ça a encore envie de détester d'autres croyants qui font des erreurs. Puis là, le Seigneur, il dit, « Je voulais juste que tu le vois. On va travailler là-dessus. » Wow! C'est une grâce, la patience. Parce que Dieu veut nous aider à grandir à tout âge. Alors, c'est une grâce lorsque Dieu nous révèle notre cœur rebelle. Puis que là, on dit, on met des mots. C'est de la haine juste dans mon cœur, c'est de l'amertume. Puis là, on peut vraiment être secouru par Dieu. Alors, si jamais tu regardes tes enfants là, faire un chemin mauvais de rébellion, là, Puis tu as tout essayé, puis là, tu paniques, là, puis tu dis, mais ou ton petit-fils ou ta petite-fille. Puis tout a été essayé. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies des choses qui sont mal, trop loin. Tu deviens moralisateur, tu deviens dominant, tu passes de la grâce à la morale. Non, tu pries, tu dis, Seigneur, ah, peut-être que tu veux faire le coup de la tour de Babel. Il faut que leur rébellion, leur orgueil, leur ressorte s'ils sont pour choisir Jésus, s'ils sont pour accueillir l'œuvre de Dieu dans leur vie. Malheureusement, dans le cas de la tour de Babel, on ne voit pas tout comment est-ce qu'ils ont accueilli l'œuvre de Dieu dans leur vie, mais il y a d'autres personnes dans ces groupes-là qui ont cherché l'Éternel dans la suite de l'histoire. Hein. Une dernière chose, c'est que les plans de Dieu ne sont pas déjoués par la volonté des hommes de pouvoir. Et ici, dans le passage, il y a des hommes de pouvoir. Il y a des hommes qui mènent. Il y a des Nimrod qui mènent, je l'ai mentionné tantôt. Et puis, il y a des gens qui montent d'autres hommes contre d'autres hommes. Il y a des hommes de pouvoir au travail. Il y a des femmes de pouvoir aussi. On va taper ces hommes-là. On va toutes les mettre dans... Mais il y a des hommes de pouvoir, des fois, dans l'Église, qui ont des moments où ils ne vont pas bien spirituels puis qui se mettent à critiquer. Puis là, on peut avoir peur que des gens partent quelque chose qui défraie les plans de Dieu. Dans nos familles, il y a des membres de la famille qui sont plus influents et qui parlent plus fort. La belle-sœur ou le beau-frère. Puis là, on dit, « Hey, elle, faudrait la faire taire. Le chaos va pogner parce qu'elle est en train d'influencer les autres. » Puis là, ben, on peut se mettre à paniquer parce que les hommes de pouvoir ont du pouvoir. Puis là, on pourrait penser que, non, ça va virer au drame. Puis là, on pourrait paniquer. Puis ici, on voit que même les hommes de pouvoir n'ont pas réussi à déjouer les plans de bénédiction que Dieu voulait déverser sur les hommes et les femmes, sur l'humanité. Le Nimrod, c'est cet homme de pouvoir-là ici. Et puis, de toute évidence, il y a eu un certain temps où ce que Dieu avait l'air déjoué. Puis là, lorsque vous vivez des moments où j'ai l'impression que les bénédictions de Dieu sont déjouées, peut-être sur ma santé, parce que le médecin prend mal soin de moi. Peut-être sur ma famille, parce que peut-être sur mes relations. Il me semble que ça fait un an, ça fait 6 mois, je suis en chicane avec mes enfants. Il me semble que les bénédictions d'une famille dans la paix, ils ne marchent pas, Seigneur. Puis là, on peut se rappeler que non. Des fois, ça prend du temps. Les promesses de Dieu, ils demeurent vraies dans la vie de ses enfants. Et ici, ce passage-là nous le rappelle. Il y a un frère que j'accompagne comme leader dans une église, puis il me partageait qu'il devait commencer à travailler une semaine par mois à l'extérieur. Puis quand il commençait à faire ça, sa femme était d'accord avec ça, mais là, il attendait une chirurgie pour son fils. Puis lui, c'est le seul converti dans sa maison. Il a 2 enfants, son épouse. Ils ont tous été initiés à la foi, mais la conversion ne vient pas. Ils viennent de temps en temps. Puis alors, pour lui, là, tout ce qu'il fait, là, il dit, hey, ça peut avoir un impact sur le témoignage de foi de mes enfants, de ma femme future. Puis là, il attendait une chirurgie pour son fils d'ici une semaine. Mais il faut qu'il parte pour le travail une semaine. Puis là, sa femme a dit, non, vas-y, le garde, là. Fait que là, il dit au Seigneur, « Seigneur, fais que tu contrôles les affaires pour que je sois là, puis que je suis comme père chrétien, tu sais, je ne suis pas tout le temps parti pour aider l'Église ou pour le travail, puis j'essaie d'être hors de reproche, puis bien stressé que ça. » Puis il a juste ce titre. Fait qu'il s'en va là-dedans, puis il prie que la chirurgie n'arrive pas pendant qu'il est parti. Mais la chirurgie arrive pendant qu'il est parti. Puis là, sa femme est dans l'amertume puis frustrée parce qu'elle savait qu'il priait pour ça. Il lui dit, on va prier Dieu que la chirurgie n'arrive pas pendant que je suis parti. Là, ça ne marche pas. Puis sa femme, qui a besoin de voir que la prière marche, ça ne marche pas. Son garçon est angoissé. Ça, c'est pas bon non plus. En fin de compte, la chirurgie arrive, puis lui, il arrive le lendemain. Il prend quelques jours de congé. Bien, la chirurgie, là, elle vire en infection. Fait que là, non, la prière ne marche pas encore. Puis là, il dit, Jean-Philippe, il dit, là, je comprends rien, là, tu sais. Il dit, qu'est-ce que le Seigneur fait, tu sais? Je dois essayer de réconforter ma femme dans l'anxiété, mon garçon. Puis là, c'est la troisième journée, j'étais à l'hôpital. Puis je le veille, il combat l'infection. Puis à un moment donné, son fils se réveille, puis là, il y a eu une conversation sur la foi, sur le salut. Parce que sa situation était plus critique, puis était ressentie beaucoup plus critique pour son fils. Puis là, le lendemain, il dit, « Ah, Seigneur, c'est pour ça. Tu voulais que j'aie cette conversation-là avec mon fils. Si tout avait bien été, là, je ne l'aurais pas eu. » Puis il a dit à son fils, « Je pense que Dieu il veut que tu saisisses qu'on est fragile, qu'on va tout un jour aller le rencontrer. » Puis ça a mal été, là. On avait prié que ça allait bien. Ça a mal été. Mais Dieu, il voulait te montrer peut-être quelque chose. Puis il dit, Jean-Philippe, il dit, Dieu n'a pas été déjoué. Même si c'était carrément une erreur médicale. Il avait fait quelque chose, là. Puis il sentait que les médecins ne voulaient pas répondre. Pourquoi qu'il y a eu de l'infection, puis qu'il a fallu qu'il réouvre. C'était louche. Sa femme était en colère. Puis là, tout ne fonctionnait pas. C'est un beau témoignage, hein, mais on a besoin de se rappeler de ces choses-là. Et puis, si tu portes une situation sur ton cœur et puis tu dis, je ne le vois pas, ferme tes yeux et tu dis, Seigneur, quelle promesse que tu veux que je voie? Quel récit des Écritures? Augmente les yeux de ma foi, rappelle-moi, puis rappelle-moi peut-être un passage comme le suivant, et je termine avec ça, dans Romains, chapitre 8. Parce qu'il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent nous donner l'impression d'être séparés de l'amour de Dieu, et on a besoin de renouveler un souffle de la foi. Romains, chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ici, c'est une citation de persécution, mais des fois, ce n'est pas juste la persécution des gens, c'est les circonstances. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, puis on pourrait rajouter, ni les hommes de pouvoir, quels qu'ils soient, ni les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis peut-être qu'en entendant ça ce matin, Dieu met le doigt sur quelque chose que tu portes, un découragement sur une situation. Et le chemin de retour, c'est peut-être de dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai enlevé mes yeux sur toi. Pardonne-moi, j'ai écouté d'autres voix. Pardonne-moi, je me suis fait des scénarios de défaite. Viens au secours de ma foi. Je veux réaffirmer, au-delà de mes yeux, qui tu es, ce que tu as fait, puis ce que tu vas faire encore. Prions ensemble. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce dans nos vies. Tu œuvres pas à travers des champions, tu œuvres à travers des perdants. Ce que nous sommes, lorsqu'on marche par la chair. Mais à chaque fois qu'on renouvelle avec toi, qu'on marche par l'Esprit, Seigneur, on goûte à cette vie-là de champion. Merci, Seigneur, pour ta grâce dans nos vies. C'est en Jésus que je te prie. Amen.